C'est vrai que comme Yann, je suis heureux de vous retrouver ou de vous découvrir pour certains que j'ai rencontrés il y a bien des années. C'est toujours la surprise, hein, quand on est dans une rencontre, dans une assemblée. C'est intéressant de voir les parcours de vie. Et puis, j'aimerais vous dire ma reconnaissance aussi pour Yann, parce que je l'ai découvert avec sa fougue, même s'il n'a pas beaucoup de force actuellement, mais son enthousiasme fait du bien. Je suis personnellement à la retraite, alors quand je vois des jeunes serviteurs de Dieu comme ça, qui sont pleins de zèle et tout, ça fait plaisir de voir que la relève est assurée et qu'ils feront certainement mieux que nous. Il faut qu'ils croissent et que nous diminuions. C'est ce que j'ai dit à mon successeur le jour où j'ai arrêté, il y a 2 ans. J'aimerais vous donner un ou deux mots de mon parcours de vie rapidement. Je pense que j'ai toujours cru en Dieu, en fait. Voilà. Ça devient peut-être un peu plus rare aujourd'hui, mais c'est un mystère, je ne peux pas l'expliquer. Mon problème, c'était d'arriver à croire Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la nuance un peu. Croire en Dieu, c'est déjà magnifique, en fait. Je pense que l'immense majorité de la création des créatures sur cette terre croit en Dieu. Croire Dieu, c'est une autre dimension. Ça veut dire qu'il faut qu'il nous parle. Il faut qu'il nous dise quelque chose, hein, comme dans toutes les relations humaines. Croire en quelqu'un, ben, il faut qu'il y ait des démarches. Alors ça, j'y arrivais pas parce que j'avais pas eu l'occasion de lire la Bible. J'ai une éducation catholique à la base, des parents divorcés, un père protestant, un schéma assez classique dans le canton de Vaud où j'ai habité pendant longtemps. Mais il y avait une chose surtout que j'ai retenue de mon éducation catholique, c'était l'apprentissage d'une prière, la prière du Notre Père. Vous connaissez le Notre Père, ils ont changé une phrase actuellement, il semble, on verra, je suis un peu paumé avec ça, mais voilà. En tout cas, manière mystérieuse, je ne peux pas l'expliquer non plus, c'est une prière que j'ai dit pendant très longtemps, même déjà comme enfant à la récréation, où le soir je ne pouvais jamais m'endormir sans dire cette prière, mais avec le recul, je me disais c'est horrible parce que je ne vivais absolument pas les paroles que je prononçais. Notamment sur le pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Après coup, je me suis dit, mais c'était horrible. Mais Dieu est bon. Dieu est un Dieu de miséricorde et de compassion. Il a vu mon cœur d'abord, qui était désespéré et qui vivait des choses pas très simples. Et puis à un moment donné, il a mis sur ma route un homme de mon âge. Je travaillais à Lausanne comme dessinateur dans le génie civil béton armé. Et puis, il y a un homme qui est arrivé, qui avait mon âge, qui nous disait qu'il était allé en Afrique et qu'il avait rencontré Jésus. Ce qui avait le don de m'exaspérer. Je trouvais que ce type, il exagérait, que c'était un fanatique. Et quand il est parti, bon débarras, mais voilà qu'il avait malheureusement infecté des autres qui m'ont demandé ce que je pensais de ce que cet homme avait dit à propos de Jésus. Et ça me mettait mal à l'aise. Et puis finalement, fil en aiguille, j'ai pu avoir pour la première fois de ma vie, j'avais 25 ans, la possibilité de lire la Bible, de découvrir l'Évangile, d'être absolument déconcerté par la richesse de Jésus, la beauté de Jésus. Et c'est Jésus qui me conduisait au Père finalement. Donc à ce moment-là, notre Père a commencé à prendre du relief. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Très très rapidement, j'ai eu sur mon cœur de servir Dieu. J'ai jamais imaginé de devenir pasteur, mais j'étais un peu comme Yann, j'avais le feu dans mon cœur. Seigneur, je veux te servir. Je pensais devenir évangéliste, et puis à la suite de toutes sortes de circonstances, eh bien, j'ai été pasteur pendant 34 ans finalement. Et puis voilà, depuis 2 ans, j'ai pris ma retraite. Donc, j'ai pas 67 ans, comme vous pourriez l'imaginer, mais 68, parce que je suis allé jusqu'à 66 ans. J'ai formé un peu mon successeur. Alors, Dans tout ce parcours, je dois dire qu'il y a eu quelque chose qui était très difficile pour moi d'assumer un ministère pastoral, c'est que j'ai réalisé au fil des années que j'étais beaucoup prise avec la peur et son compagnon, les angoisses. Et ça a été très très pénible pour moi, très très douloureux, très très difficile, vraiment. Et je ne savais pas vraiment que faire avec ça. D'abord, je n'osais pas vraiment parler. Et puis, j'ai fait avec. J'ai serré les dents. Et puis, voilà. Et puis, un jour, j'ai fait le cours Vive Libéré. Et tout s'est éclairé. C'était le flash publicitaire, ça. On va voir si ça fonctionne. Normalement, ça doit fonctionner. Ça va fonctionner. Yann, ça va fonctionner. Ça fonctionne. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quelle attente vous êtes venu. Je suis allé faire ce cours Vie Libérée, mais je n'avais pas d'attente. Donc, si vous n'avez pas d'attente particulière, on va bien s'entendre. Mais j'étais touché par le témoignage d'un des animateurs du cours, parce que assez souvent, ces cours, il y a plusieurs intervenants différents. Et puis, un homme qui est venu là a parlé de ses angoisses. Et ce qu'il en disait m'étonnait quand même. Donc, pendant la pause, je suis allé vers lui, j'ai dit, écoute, il faut qu'on se voie, il faut que je prenne un moment avec toi pour vérifier certaines choses, parce que ce que tu as partagé, moi, honnêtement, je ne sais pas que je vais être incrédule, mais j'ai eu tellement de luttes dans ce domaine, j'ai un peu des doutes, je me demande si ça peut s'appliquer à moi finalement. Donc, finalement, ce cours m'a permis d'aller plus loin dans ce domaine. Et j'ai. Là, je vais vous montrer une ou deux images. Ce ne sera pas dans la première leçon qu'on va tellement développer ça, mais c'est pour vous donner une idée par rapport au manuel que vous avez là. C'est un manuel de travail. J'ai bien aimé ce qu'a dit Yann tout à l'heure. C'est vrai, c'est intéressant de le faire comme ça, à l'espace d'un mois, de rencontre en rencontre, parce que vous aurez du temps, j'espère que vous pourrez prendre le temps d'approfondir. C'est intéressant parce que si on fait qu'acheter la brochure mais qu'on ne peut pas suivre le cours, ce n'est pas du tout pareil. Mais en même temps, ce n'est pas parce que vous avez acheté le manuel, vous étiez obligé, hein, mais, et puis que vous êtes là ce soir, que vraiment ça va le faire. Il y a du travail là-dedans. C'est une brochure qu'on va survoler. Un peu, même si ça peut vous sembler énorme qu'on passe 12 heures pour partager ce qu'il y a dans cette brochure qui n'est pas très épaisse, vous verrez qu'en réalité, il y a des dimensions que ça touche qui nous interpellent profondément. Peut-être qu'on a des combats aussi, des luttes, accepter certaines affirmations. Ben voilà, moi j'ai passé un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais au fur et à mesure, j'ai été vraiment encouragé et réjoui. Et ça fait maintenant 6 ans que je suis impliqué dans ces formations. Et vraiment, on a eu beaucoup, beaucoup d'échos de gens qui ont été bénis, qui ont été surpris aussi de la démarche. Parce que, dans le fond, un des éléments essentiels de ce cours, c'est quand même se laisser surprendre par Dieu, qui est un Dieu de révélation. Qui sait où on en est, qui sait dans le secret de nos cœurs, des dimensions qu'on n'ose peut-être pas dire aux autres, et qui peuvent nous décourager, qui peuvent nous rendre la vie chrétienne assez pénible. Et dans ce cours, on va vous parler de forteresse, on va vous montrer cette image parfois. Je vous donne juste un avant-goût pour relier cela à ma vie. On dit sous forme très schématique, hein. C'est un peu comme les paraboles, hein. Il faut pas essayer de voir tous les détails, mais pour moi, ça m'a aidé, et j'espère que ça peut vous aider dans ma compréhension. l'image de l'art pour dire, ben voilà, la partie costaude, visible, c'est notre personnalité. Et puis, ben voilà, il y a des fruits qu'on porte, puis il y a des racines. Voilà, si on transpose ça dans notre être profond, qu'est-ce que ça donne? Alors, vous verrez qu'on va découvrir six fresques, comme on va les appeler, différentes. Chaque soir, vous allez découvrir, chaque soir du cours, vous découvrirez une de ces forteresses. En ce qui me concerne au niveau de la peur, j'ai compris dans le fond que quand on est saisi par des peurs et quand on est pasteur, on a des bonnes occasions d'avoir peur, ne serait-ce que de se lever, de prendre le micro, d'essayer de dire des choses qui vont intéresser les gens. Est-ce qu'on va se faire lapider tout de suite ou dans 2 mois, est-ce que, etc. Puis il y a plein de situations dans lesquelles on se trouve, ben, on peut se demander si on sera à la hauteur, etc. Alors qu'est-ce que ça produit quand on a des peurs? Ben, pour moi, c'était vraiment au niveau des angoisses, que j'avais ça me disait des fois l'angoisse, la honte, je me disais, mais moi j'aime bien l'évangélisation, je disais, mais est-ce que je suis honnête avec les gens? Je leur parle de Jésus qui libère, Jésus qui est extraordinaire, et puis si j'ai tellement de peur, malgré les promesses de l'évangile, est-ce que je suis honnête? Est-ce que je suis cohérent? Donc ça me faisait honte parfois. Donc ça conduisait parfois à perdre la paix, la joie. Je me sentais coupable de ne pas avoir une vie chrétienne peut-être plus performante. Ça fatigue tout ça. J'étais parfois découragé. Voilà. Puis, des fois, ben, ça m'empêchait de pouvoir peut-être rendre un témoignage ou avoir une présence qui soit aussi percutante que je l'aurais souhaité. Alors par rapport à toutes ces forteresses, vous verrez, peut-être que la plupart vous diriez qu'on ne sait pas, puis peut-être qu'il y en a une tout d'un coup qui vous interpellera. À partir de là, mais est-ce qu'il faut essayer de travailler sur les fruits uniquement, ou est-ce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des racines? Alors là, j'ai mis quelques racines. Et bien sûr, à travers ce cours, vous verrez qu'on va essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Et puis, évidemment, on a des vies très différentes les uns des autres. Il peut y avoir un déficit d'amour, un manque d'amour. Alors, c'est clair, le fait d'avoir eu des parents qui sont divorcés très jeunes, d'avoir pas eu de père à la maison, une maman qui a dû beaucoup, beaucoup travailler pour nous élever avec mon frère, ben, malgré tout ce que maman a voulu faire pour nous, parfois je me suis senti livré à moi-même, etc. Mais puis il y avait aussi toutes sortes de fausses croyances, voilà, de se dire jamais on va s'en sortir, et puis de toute façon c'est comme ça, on peut être coincé, il peut y avoir des traumatismes, etc. Il peut y avoir des problèmes, des péchés générationnels, etc. Des transmissions de génération en génération, dans notre ADN, dans notre personnalité profonde. Moi, j'ai beaucoup souffert de peur et d'angoisse, mais si vous aviez pu rencontrer ma mère, alors moi, c'était rien à côté de ma maman. Ma maman, elle était mais dans des peurs. Moi, ça me faisait tellement mal au cœur de la voir comme ça. Elle s'angoissait pour tout, pour tout, pour tout. Et à quelque part, j'ai réalisé que j'avais aussi... hérité de cette dimension-là, de sa personnalité. Alors, voilà un peu des dimensions dans lesquelles on ira, pas beaucoup ce soir, on va déjà essayer de poser un fondement. Et ce soir, en fait, on va parler de quelque chose de très beau, c'est un premier temps, du fait qu'on est créé avec... une destinée. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Le dessein originel de Dieu. Et dans ces pages de votre début de cours, il y a plusieurs pages, plusieurs textes magnifiques sur la création. Alors, je suis marié, je suis père de 3 enfants, grand-père de 5 enfants, et je pense qu'il y a des grands-parents à voir certains cheveux gris par là. J'ai trouvé magnifique quand on devient grand-parent. C'est comme un recommencement et un re-émerveillement quand on voit la naissance de mes petits-enfants, voir ces petits bouts de choux. On dit c'est magnifique. C'est extraordinaire. Cette innocence d'un enfant qui dort sur le sein de sa mère, qui tète, cette dépendance et tout, c'est juste extraordinaire. Et dans le fond, on se dit, ben voilà, c'est un cadeau, la vie. Il y a un capital qui est là, il y a un potentiel, et on espère le meilleur pour cet enfant, pour les petits-enfants, etc. Et on se dit, à quelque part, ben voilà, si on transpose ça au plan spirituel, la création, le Dieu créateur, le Dieu qui nous aime, le Dieu de la Bible, c'est ça, qui a eu plaisir à créer la terre sur laquelle on allait habiter à un moment donné. Chaque jour, la création se termine, mais voilà, c'était bon ce qui était créé. Il y avait une satisfaction profonde. L'homme est le summum de la création. Et c'est particulièrement bon, la création de l'homme pour Dieu qui a plein de projets. Et puis, patatras, il y a ce qu'on appelle la chute. Hein. Il y a un ennemi, il y a un serpent qui est là. Et ça met les choses de travers. Et on se rend compte que finalement toute la terre souffre, même la création souffre. Mais ça vaut quand même la peine de se replonger dans les racines de la révélation de Dieu à l'humanité et de relire tranquillement, vous pourrez le faire chez vous, certains textes qui sont mentionnés sur ce plan, ce projet de Dieu qui est absolument extraordinaire. Et le péché entre dans le monde, il sabote beaucoup de choses parce que ça nous coupe de la relation avec Dieu et nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu. Et c'est le but de la vie. Et on peut se poser la question, j'ai réussi dans la vie ou j'ai réussi ma vie, hein, là aussi il y a des nuances. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent dans la vie, ils ont des fortunes colossales, apparemment ils ont tout leur réussi. Mais est-ce que c'est le but de la vie? Réussir sa vie, c'est autre chose. Hein. C'est avoir cette grâce de découvrir cet amour de Dieu pour nous. De savoir qu'on est aimé de toute éternité, même avant la fondation du monde, Dieu nous a aimés. Il y a un but dans la vie. Et Dieu poursuit un objectif avec nous. Il veut une relation d'intimité même. Il veut qu'on puisse lui faire confiance. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Il s'intéresse à nous. On en reparlera tout à l'heure quand on va parler de la question du salut. Alors il y a ce dessein originel de Dieu, et puis il y a aussi ces forteresses. Et vous verrez, je vais vous mettre dans le fond ces 5 mots-clés qui résument bien cette première rencontre, cette section 1, même si on ne va pas lire chaque page, etc. Je ne vais pas lire beaucoup, en fait. Je vous résume un peu le contenu pour vous permettre d'avancer avec une ligne directrice. Et puis, ça permet de mettre en relief les éléments essentiels. Il y a ces éléments qui nous dominent, des fois, dans des traits de caractère, dans notre personnalité. Des choses qui sont dans nos bagages et on ne sait pas trop que faire avec cela. Et puis, on se dit, est-ce que toute notre vie, ce sera comme ça? Ou bien est-ce que Dieu n'aurait pas, lui, une autre intention? Est-ce que lui ne pourrait pas intervenir? Et puis, on peut avoir une tension entre ce dessein originel de Dieu et puis la réalité de notre vécu, notre quotidien. Alors, à la fin de ce cours, on n'aura certainement pas réglé toutes les tensions dans lesquelles on peut se trouver, mais je crois qu'on peut être excessivement encouragé s'il y a des choses précises et précieuses que Dieu nous montre dans notre parcours de vie. S'il peut déjà dégager des étapes, ses prémices d'autres étapes qui seront là. Et j'aime bien, moi, cette image de l'histoire de la sortie d'Égypte, hein, sous Moïse, Et puis après, il y a Josué qui va prendre le relais et qui va conquérir la terre promise. J'aime bien cette image, même si par certains côtés, elle est assez lugubre, puisqu'il y a toute la génération qui est sortie d'Égypte qui n'a pas pu entrer en terre promise par incrédulité, par cause d'incrédulité. Mais il y avait quand même Josué et Caleb, deux hommes qui ont eu la foi et qui sont entrés dans la terre promise. Mais voilà, dans la terre promise, il a fallu quand même entrer dans des conquêtes. Et je pense qu'on peut avoir tous des défis dans notre existence. Et dans ces défis, Dieu nous dit, mais je vois ce que tu vis, je sais exactement qui tu es, moi je peux t'aider, je ne vais pas te laisser tomber, mais je ne veux pas faire sans toi. Et Dieu va collaborer avec nous quelque part. On n'est jamais des robots, il nous respecte trop pour cela. Mais il nous révèle, il nous montre des dimensions de notre parcours. Et puis, il veut mettre peut-être des personnes sur notre route pour nous aider. Il va nous donner, bien sûr, sa parole, la Bible. Il nous donne la prière. Il nous donne des compagnons de route, des frères, des sœurs. Peut-être que vous faites partie d'un groupe de maison ou d'une cellule. Moi, je fais partie d'un trio de prières d'hommes. C'est juste un régal. J'ai ce privilège depuis plusieurs années. On est trois hommes. Moi, j'ai ces deux frères aînés. L'aîné, il a 85 ans. C'est Caleb, 85 ans. Caleb, et lui, il va encore conquérir des portion du royaume de Dieu sur cette terre. C'est extraordinaire, c'est un homme qui a une foi, mais moi ça me stimule tellement. Et je trouve que c'est magnifique, des compagnons de route que Dieu nous donne. Alors voilà, il y a des dimensions là dans lesquelles on peut entrer, et par rapport à ces temps de prière dont on a parlé tout à l'heure, eh bien voilà, il y a deux temps de prière. Il y en a un où des équipiers vous se mettront à l'écoute pour essayer de capter une parole, une image, un texte, une pensée qu'ils vous transmettront en temps utile pour vérifier si elle vous rejoint. Dans quelle mesure ça vous parle? Puis ils vont prier sur cette parole, sur cette pensée. Et puis il y a un deuxième temps qui est un temps de discernement par rapport à une forteresse. Quelque chose, moi je vous ai parlé de la peur, et il peut y avoir, on va parler de la colère tout à l'heure, il peut y avoir la honte qui peut être une forteresse, la honte, même le désespoir, suivant ce qu'on a vécu. Il peut y avoir l'infériorité, il peut y avoir la passivité, il peut y avoir le rejet. Et tout à la fin de la brochure, il y a d'autres forteresses qui sont mentionnées, qui ne sont pas développées dans le cours, mais on se rend compte finalement, et ça c'est ce que je retire quand même de ces 34 années de ministère pastoral. Les parcours de vie ne sont pas simples, hein, la plupart du temps. Puis il y a des choses qui nous dépassent, qui sont le fruit justement de notre enfance, de notre jeunesse, peut-être des erreurs de casting, peut-être des croisements qui n'ont pas été bien pris dans la vie. Et puis, voilà. Et on peut se sentir enfermé, on peut se sentir être mis de côté. On a besoin de relations humaines. Puis en même temps, les relations humaines, elles sont complexes. Et voilà, on a ces bagages. Et si Dieu peut mettre le doigt sur un mot, une révélation précise qui nous aide, eh bien c'est fantastique. Et dans ces temps de prière, il y a souvent des choses étonnantes qui sont accordées. Je suis aussi équipier de prière, Yann a dit qu'il l'a été. Les équipiers de prière, ils tremblent, je peux vous dire, ils se préparent le mieux possible, ils ont été formés, mais à chaque temps de prière, c'est chaque fois une aventure, du Seigneur au secours, aide-nous. Mais vous verrez, ça se passe en général très bien et tout est sous le contrôle de l'esprit. Les pensées qu'on ressent, on vous les soumet. On vérifie que ça vous rejoigne. Et si ça vous rejoint, on peut aller plus loin. Mais il y a un grand respect mutuel. Il y a souvent des gens disent, mais on a peur, qu'est-ce qui va se passer? Mais nous ne sommes pas des médiums. Nous sommes des humains comme vous, pécheurs comme vous, peut-être plus que vous encore, mais conscients de la grâce de Dieu, et on a la foi que Dieu est un Dieu de révélation. Ces forteresses peuvent échapper à notre compréhension. Mais peut-être quelque chose qui peut vous aider, si vous êtes marié, vous découvrez chez votre conjoint. Souvent, il y a des travers dans le caractère, dans les attitudes. Puis, le conjoint lui-même n'est pas forcément conscient de ça. Ma femme a dit l'autre jour, mais quelque chose sur sa mère qui l'énervait. J'ai posé lui dire qu'il me semblait que elle avait un peu... Mais j'ai posé lui dire, parce qu'il dit, attends, il faut que j'attende le bon moment. Mais certainement qu'elle a vu beaucoup de choses en 42 ans de mariage de ce type chez moi. Alors voilà, on y va tranquillement. Il faut attendre le bon moment. Il faut le temps de Dieu, comme on dit. Mais réfléchissez à ça, ça peut nous aider pour dire, mais c'est vrai. Puis après, ben, on fait avec ou comme ça. Mais et si Dieu voulait quand même, parce que des fois, ça peut être, ben, on va en parler avec la colère tout à l'heure. Si un des conjoints a des accès de colère qui tétanisent les enfants aussi et tout, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Ça, c'est... Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Moi, je ne crois pas. Donc, comprenez, hein, quand on parle de forteresse, c'est qu'il y a vraiment des fois des travers dans nos caractères qui rendent très, très difficiles les relations au sein du couple, mais ça peut être avec les collègues de travail, bien sûr... ça peut être dans tout les relations sociales qui sont là. Et ça peut nous isoler, hein, littéralement, parfois, suivant le caractère qu'on a. Et puis on peut en être malheureux parce qu'on en est conscient. Et puis voilà, donc c'est là qu'il faut parler. Évidemment, bon, j'avais marqué une des phrases par rapport à ces forteresses. Hein, sont des pensées, des opinions, des philosophies, attitudes, habitudes et valeurs qui résistent à la vérité de Dieu. Entre autres les vérités bibliques au sujet de la vie selon le plan originel de Dieu. Ça, c'est une phrase que vous avez dans votre cours. Mais c'est dans le chapitre sur les forteresses. Alors, mais voilà, vous pourrez stabiloser des phrases qui vous frapperont, qui vous marqueront. Alors, on a vu deux de ces points, ces jalons, qui vont être développés, qui vont être repris. Mais dans ce premier chapitre, il y a déjà cette notion, l'intervention du serpent dans le jardin, le fait que Adam et Ève ont succombé à cette tentation, ont douté de l'amour de Dieu, qu'il y ait eu cette relation, que Adam et Ève ont été chassés du jardin, eh bien, le diable ensuite a œuvré, si vous lisez tout l'Ancien Testament, il y a des choses épouvantables qui se passent, même au sein du peuple de Dieu, même au sein du peuple d'Israël. Déjà Caïn et Abel, etc., avant même qu'Israël existe, il y a des horreurs qui se sont passées à partir de là, qui se sont produites, et puis on voit que le diable intervient dans le Nouveau Testament. Là, on a des précisions avec la venue de Jésus et les épîtres, où on voit bien que le diable essaye de nous empêcher d'avancer, essaye de nous tendre des pièges, de nous entraîner dans des tentations. Et puis, après, on ne sait pas que faire avec ça. Mais Dieu est un Dieu de salut. Il ne nous livre pas nous-mêmes. Il nous aime trop pour cela. Et on peut se poser la question, des fois, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Qu'est-ce qu'on entend par là? Hein, c'est d'avoir l'assurance qu'on est aimé de Dieu, que notre péché est pardonné, que si on meurt aujourd'hui ou demain, on va vraiment dans sa présence, et puis qu'on aura un corps de résurrection, qu'on vivra toute notre existence future, qui ne prendra jamais fin, dans la présence même de Dieu, ce sera quelque chose d'inouï, d'incroyable. Ce sera encore mieux que dans le jardin d'Éden. Alors, est-ce que c'est ce que je vis? Est-ce que le salut, ça s'arrête uniquement à cette dimension? Super, j'ai mon ticket pour le ciel. Ou est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus? Et il y a un personnage qui revient deux ou trois fois dans ces pages, pas seulement dans le premier chapitre, par la suite aussi. C'est un homme qui s'appelle Zachée. Vous connaissez Zachée? Vous avez lu l'Évangile? Hein, cet homme qui est un péager à Jéricho. Un péager, c'est quelqu'un qui s'enrichit sur le dos des autres, qui est au service de l'ennemi romain. Pour les juifs, c'est quelque chose d'insupportable, au point qu'un péager, bien, il est isolé, il ne peut pas aller à la synagogue, il ne peut pas témoigner dans un tribunal. Puis, il n'a pas des bonnes relations autour de lui. Il est haï. Et puis cet homme, Zachée, eh bien, il entend dire que Jésus va entrer dans Jéricho, cette ville où il habite aussi, Zachée, et puis il va se précipiter vers Jésus. Jésus va outrer les hommes religieux de Jéricho en s'invitant dans la maison de Zachée. Mais là, il y a quelque chose qui est magnifique. Ça, vous l'avez à la page 13. Je vais quand même vous faire ouvrir le livre à un moment clé. Voilà, dans la page 13, tout en bas à gauche. Quel était le but du ministère de Jésus? Eh bien, voilà, c'est ce que Jésus va dire à Zachée, car le Fils de l'homme, c'est le titre préféré que Jésus aimait se donner, comme ça qu'il aimait s'appeler. C'est une prophétie du livre de Daniel qui mettait en exergue le fait que ce Fils de l'homme, c'était un envoyé de Dieu particulier qui aurait été de toute souveraineté sur les nations, enfin, qui avait vraiment un titre très noble, porteur. De choses magnifiques. Alors Jésus est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Je dois dire que pendant des années, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas trop réfléchi à ce texte, parce que si on m'avait demandé de dire cette phrase par cœur, j'aurais dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Vous comprenez la nuance ? Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce qui est vrai. Il est venu chercher des gens qui étaient perdus, des gens d'Israël qui étaient rejetés par les chefs religieux, et des chefs religieux eux-mêmes qui pensaient être meilleurs que les autres, mais en fait, ils étaient très très loin du royaume de Dieu. Mais aussi des païens, Jésus est allé dans les territoires païens. Alors il est venu chercher ceux qui n'avaient pas d'espérance, ceux qui étaient perdus, qui n'étaient pas dans l'alliance du Dieu d'Israël. Mais là, il est dit « chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». C'est eux. Alors, qu'est-ce qui était perdu chez Zachée, hein? Qu'est-ce qui était perdu? Ben, il n'avait pas de relation avec Dieu, probablement. Je pense qu'il devait être fortement culpabilisé. Il devait y en avoir des colibés. Son passage, il ne peut pas entrer dans ce cortège, enfin, dans cette foule qui voit Jésus, parce qu'il est de petite taille. Puis il y a beaucoup de monde. Mais je pense qu'il avait été respecté, lui qui était si riche que cela. Tout le monde se serait écarté. « Oh, Zachée, je t'en prie. Oh, je mets mon manteau par terre et vas-y, viens tout près pour voir qui est Jésus. » Mais il a dû grimper sur un arbre. Et quand Jésus s'invite dans sa maison, il est « Moi, quoi ? Mais c'est pas possible. » Et puis il comprend que Jésus l'aime. Jésus prend tous les risques à entrer dans la maison d'un homme pécheur comme ça. C'est juste avant d'aller à Jérusalem pour la dernière fois, avant d'être condamné, crucifié. Et qu'est-ce qui lui a valu cette condamnation à Jésus? C'est parce que justement, c'est ce genre d'attitude d'entrer dans la maison des pécheurs, d'entrer chez Zachée. Mais c'est horrible d'avoir fait ça. Donc Zachée a pu prendre conscience de cet amour incroyable. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, Zachée, il dit, mais Seigneur, si j'ai pris de l'argent à des pauvres... Non, il dit, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre au quadruple. La loi exigeait qu'on rende une fois ou le double, le triple, c'est déjà extraordinaire, le quadruple, c'était exceptionnel. Donc, il y a une irruption du royaume de Dieu dans le cœur de Zachée à ce moment-là, et ça provoque aussi une influence sur sa manière de gérer ses finances. Sur sa conscience qu'il y a autour de lui des gens qui sont pauvres, des gens qui ont des besoins particuliers. Tout d'un coup, il s'ouvre au monde, c'est un bouleversement complet. Cette irruption du royaume de Dieu dans son cœur, c'est quelque chose de fantastique. Mais ça change aussi certainement beaucoup dans les relations avec les autres, parce qu'évidemment, s'il va rendre de l'argent à des pauvres ou à des gens qu'il a escroqués, il va donner de l'argent à des pauvres, ben, ça va lui ouvrir des relations. Ce serait intéressant de savoir la suite, qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho, cette nouvelle église qui s'est formée là avec deux aveugles qui ont été guéris, avec Zachée, etc. Bon, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà. Et je pense aussi dans sa relation avec lui-même, Zachée. Il était petit, peut-être que ça le complexait. Et puis il avait entendu des propos malveillants sans doute, des gens qui veulent peut-être se venger, qui le haïssaient. Et puis, il était peut-être mal d'avoir tout d'un coup une conviction de péché. Et puis voilà. Et de ce côté-là aussi, Dieu peut faire quelque chose de magnifique dans nos cœurs. Chercher à sauver ceux qui étaient perdus, ben, le Christ vient nous racheter de la condamnation. il vient nous arracher les griffes du diable, mais il vient reconstruire quelque chose, restaurer quelque chose dans nos cœurs. Et il voudrait mettre en place des éléments dans lesquels nous avons des luttes particulières, et il sait très bien qu'on ne va pas s'en sortir tout seul malgré notre bonne volonté. Et il sait nos fatigues, nos découragements, et vraiment ce cours, j'espère, va vous remplir d'espérance, va vous ouvrir des chemins, va vous permettre de voir Dieu aplanir des montagnes, je l'espère de tout cœur. Et pour cela, on en vient au quatrième mot-clé de cette formation. C'est le mot transaction spirituelle. Ça fait un peu barbare, hein. Il faut que je vous explique un petit peu. Est-ce que vous avez vécu des transactions aujourd'hui? Ça vous est arrivé de vivre des transactions aujourd'hui, dans cette journée? Il y a quelqu'un qui a vécu une transaction aujourd'hui? Moi, j'en ai vécu une tout à l'heure à la station-service. J'ai sorti ma carte de crédit. J'ai payé avec ma carte de crédit. Qu'est-ce qui apparaît sur l'écran quand vous payez avec une carte de crédit? Vous avez déjà regardé? Vous ne savez pas ce qui est marqué sur l'écran? Bon, il y a le chiffre qui apparaît. Mais qu'est-ce qui apparaît? Transaction, ok. Donc, dans l'existence de votre vie quotidienne, il y a une quantité de transactions qui s'opèrent. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans le domaine du commerce, ou s'il y a des avocats, etc. Il y a des transactions, plein de plans différents dans notre vie. Et ces transactions, elles sont régies par des lois, des règles, il y a des autorités qui contrôlent ça, etc. Si vous achetez une maison, vous allez devant chez un notaire. Voilà, il y a des transactions qui s'opèrent. Hein. Et au plan spirituel, c'est pareil. La plus merveilleuse transaction qui puisse s'opérer, c'est de pouvoir passer du monde des ténèbres à son admirable lumière. C'est-à-dire qu'on est conscient tout d'un coup, je ne sais pas comment vous avez découvert l'amour de Dieu, comment vous avez pu entrer dans une dynamique d'alliance avec Jésus, qui nous conduit au Père, qui nous accorde le Saint-Esprit. Alors pour certains, peut-être vous avez grandi dans un foyer chrétien, et puis il n'y a pas eu ce qu'on appelle une conversion très très marquée. Peut-être ça s'est fait d'étape en étape. Puis voilà, il y a eu plusieurs carrefours où vous avez compris que vous étiez vraiment chrétien, disciple de Jésus. Puis pour d'autres, c'était vraiment le jour et la nuit, ou la nuit et le jour, plutôt. C'est mieux comme ça, hein, dans ce sens. Mais ça, c'est quand même le plus grand miracle de Dieu, quand on est à la vie nouvelle, quand on devient une nouvelle créature, quand on peut s'abandonner dans les bras du Père. Et là, c'est une transaction spirituelle fantastique. Mais est-ce que c'est la seule transaction spirituelle qu'on va vivre? Bien non. En réalité, dans notre existence, il va y avoir plusieurs de ces transactions. Et certainement que si vous réfléchissez à votre parcours de vie, si vous avez plusieurs années de marche avec Dieu, vous savez très bien qu'il y a eu des moments de visitation, il y a des moments où vous étiez conscient qu'il y avait une onction particulière de Dieu sur vous. Mais c'est ce qu'on aimerait vivre dans ce cours. Et les équipiers, quand ils peuvent prier pour des personnes, les bénir, et vivre une transaction par rapport justement au domaine de la peur, par exemple, ou voilà, ces forteresses qu'on va voir, c'est le plus grand cadeau qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Et ils sont très, très heureux quand ça se passe, et c'est ce qu'on essaye de viser. Mais voilà, on dépend de la grâce de Dieu. Et puis, il faut bien admettre qu'on est en route tous. C'est un processus de révélation. Nos parcours de vie, des fois, des choses peuvent se mettre rapidement en place, des fois, pour des raisons qui nous dépassent. C'est plus lent comme cheminement. Mais quand on est convaincu que vraiment Dieu nous aime et qu'il veut faire quelque chose de notre existence, là où ça fait mal, là où on est peut-être même déprimé parce qu'on n'en peut plus, c'est des bouffées d'oxygène. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? J'espère. Hein? Voilà. Et la transaction spirituelle, ce n'est pas une technique psychologique. Hein, c'est pas juste des choses qu'on invente, c'est vraiment l'irruption du royaume de Dieu. Et enfin, le cinquième mot clé, c'est la repentance. Ça va peut-être vous étonner, ça. On n'en parle pas beaucoup dans l'église, hein, de la repentance, ou bien Puis nous, peut-être qu'on se dit au mieux, oh oui, je me suis converti le 22 septembre 92, 92. Ouais. Puis là, j'avais un petit péché, j'avais volé 10 francs à ma mère, puis elle avait vu, donc j'ai dû me repentir et tout. Mais après, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous vous êtes repenti? Alors là, c'est assez intéressant parce que on va vous parler d'une prière un peu particulière là aussi. On va vous parler de la prière des 4 R. C'est un terme un peu bizarre, hein. Et cette prière, je vais vous l'expliquer. On va la reprendre un petit peu plus tout à l'heure dans la forteresse de la colère. C'est un truc mnémotechnique. 4 R, mais en fait, c'est surtout basé sur un texte biblique, c'est Jacques 4, versets 7 à 8. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Hein. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Quelque chose comme ça. Ce texte va apparaître à l'écran tout à l'heure, mais dans la deuxième partie. Mais R, se repentir, c'est reconnaître. Reconnaître que il y a quelque chose qui est à mettre en ordre avec Dieu. Au risque de vous étonner, par exemple, pour prendre quelque chose de très concret dans ma vie, quand j'ai réalisé quelque chose, que Dieu voulait faire quelque chose avec ma peur et mes angoisses, j'ai été conduit avec ce qu'on nous disait dans ce cours à dire, Seigneur, je te demande pardon, parce que dans le fond, il y a tellement de promesses par rapport au fait que tu veux nous donner ta paix. Et j'ai l'impression que, certes, j'ai des fois crié à toi pour que tu interviennes, mais j'aurais peut-être dû, parce que je crois que c'est ce que la parole nous dit, porter vos fardeaux les uns des autres, j'aurais dû faire des démarches, aller oser dire que j'étais comme lié par des peurs, par des angoisses, mais je n'osais pas le dire. Peut-être par orgueil. Peut-être par crainte des hommes, mais on est appelé à avoir la crainte de Dieu plus que la crainte des hommes. Donc, à quelque part, j'ai été amené à faire une démarche de ce type, de demander pardon à Dieu. Faut que ce soit conduit, c'est pas une méthode. Mais c'est intéressant, des fois, de se placer devant Dieu, d'être à l'écoute de Dieu, et de lui demander dans un premier temps s'il n'y a pas quelque chose à mettre en règle dans notre vie. Deuxième R, c'est résister. R comme résister, parce que on a compris dès le jardin d'Éden que même si on n'arrive pas à tout expliquer par rapport à l'action du prince de ce monde, du prince des ténèbres, Satan, l'ennemi de nos âmes, il a toutes sortes de titres, de noms. Mais je pense que si vous n'avez pas conscience de l'existence du diable, excusez-moi, je me demande si vous êtes vraiment disciple de Jésus. Parce que si vous êtes vraiment disciple de Jésus, vous aurez certainement vécu des fois des attaques, des assauts redoutables. Il ne s'agit pas de mettre le diable partout. Mais de ne pas être naïf non plus. Et le diable, il va essayer d'entraver notre développement spirituel. Il va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Et parfois, il y a des chutes graves. Il y a des tentations qui nous conduisent à des pertes épouvantables. Des adultères qui se payent cher, qui détruisent des familles, et tant d'exemples qu'on pourrait mentionner. Alors on peut lui résister. Et il y aura tout un chapitre sur exercer l'autorité que Jésus nous donne. Rien ne vous interdit d'aller déjà le voir, ce chapitre, dans ces prochains jours, mais voilà, vous allez à votre rythme. Mais voilà, on peut lui résister. Et Jésus lui-même a été tenté. Même s'il n'avait pas commis de péché, il a été tenté, mais il a utilisé les armes que le Père mettait à sa disposition. Contrairement à Adam et Ève qui se sont laissés avoir comme des débutants, mais nous pouvons aussi nous laisser avoir comme des débutants dans ce domaine. Combien de fois nous croyons des mensonges? je suis nul. Combien de jeunes, c'est pas enregistré, hein? C'est enregistré, bon alors, je vais pas donner d'exemple trop personnel. Non, non, mais voilà. Mais voilà, quelqu'un de ma famille, je dirais, voilà, comme ça, l'autre jour, c'est un de mes petits-fils, je peux vous le dire quand même, sa maman disait, mais c'est terrible, il arrête pas de dire, je suis nul. Il a fait des mauvaises notes à l'école, je suis nul. Mais nous, adultes, même au plan physique, hein, des fois, je suis trop petit, je suis pas assez grand, je suis trop ceci, trop cela. Est-ce que c'est pas des mensonges, hein? Que nous dit la parole de Dieu? Est-ce qu'on se laisse guider par les canons de la mode, de la société, ou est-ce qu'on va dans la parole de Dieu où Dieu dit, tu es une créature merveilleuse, tu es magnifique, je t'aime de toute éternité, etc. Et peut-être là aussi, on peut d'abord passer par un chemin de repentance, mais après, dire, mais Satan, moi je dénonce tes manigances, tes mensonges, je ne veux plus y croire. Moi, c'est l'autorité du nom de Jésus qui m'intéresse. C'est sa parole, moi, ma source. Ce qui me nourrit, c'est la parole de Dieu. Ce que je veux entendre, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça que je vais grandir. Voyez ? Mais on peut résister. Et parfois, on est passif. Et peut-être qu'il faut confesser notre passivité, ou notre ignorance, notre paresse d'être si peu attentif à lire la parole. Enfin, je ne veux pas vous faire un discours de pasteur. Je laisserai Yann vous donner cet enseignement. Mais vous aurez compris, hein, j'essaye de vous stimuler. Et puis, troisième R, comme remplacer. Remplacer, justement, ces pensées qui ne sont pas justes, qui ne sont pas la vérité, par cette parole de Dieu. Au lieu de dire « je suis nul », de dire « je suis créature de Dieu magnifique », c'est extraordinaire le privilège que j'ai d'être enfant de Dieu, d'être membre de son peuple, d'être son serviteur, sa servante, d'être co-héritier avec Christ. Hein? Jésus me dit qu'il veut me donner sa paix, sa joie. Je peux apprendre des versets par cœur, des promesses de la parole par cœur. L'Éternel est mon berger. Il est mon berger, c'est extraordinaire. Ses brebis entendent sa voix. C'est magnifique, Seigneur, je ne suis pas un nul. Je suis une créature fantastique. Une créature avec laquelle tu veux communiquer. De ce côté-là, je trouve super les téléphones portables. Hein, ça devient épouvantable. Ça devient une maladie. Hein, aujourd'hui, ça devient un problème de société terrible. Hein, mais moi, ça me parle quand même des fois. C'est fantastique de voir des gens dans la rue comme ça. Dans le train, comme ça, personne ne se parle, mais je dis, si on pouvait vivre avec Dieu, hein, ce serait fantastique. Tout le monde comme ça, Seigneur. Mais qu'est-ce qui empêche? La communication est ouverte, c'est gratuite. Enfin, ça coûte très cher, ça coûtait cher à Jésus pour le mettre en relation, en communion. Mais voilà. Mais enfin, c'est pour dire, voilà, remplacer les mensonges du diable par la vérité de Dieu, c'est quelque chose d'indispensable. Puis enfin, recevoir, parce que ces changements que Dieu veut opérer dans nos cœurs, ça ne se fait pas à la force du poignet. C'est une œuvre de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit qui veut venir nous couvrir de son ombre, qui veut venir faire une œuvre, qui veut nous accorder des onctions, qui veut nous renouveler en espérance, dans la grâce, qui veut nous permettre de vivre des nouvelles étapes. Et vraiment, on va tout faire pour prier pour vous, aussi avec les équipiers, avant même qu'ils vous rencontrent, pour que ce cours soit béni, que ce parcours soit béni, que vous soyez rencontrés par Dieu, qu'il y ait une visitation de l'Esprit qui vienne sur vous. On va faire une pause là, Yann, et juste par rapport à l'annonce qu'il a faite, comme on doit avoir... Yann, tu me donnes quand même ton autorisation d'ouvrir le cahier un peu plus loin? Il veille comme un berger sur son troupeau, là, il a raison. Je pense qu'effectivement, c'est sage déjà de bien travailler cette première section, mais ce qui n'empêche que vous pouvez déjà un petit peu aller plus loin, des fois, on n'a jamais fait le tour, de toute manière. Mais surtout, lisez les textes bibliques, C'est un cours qui est éminemment biblique, réellement. J'ai eu le privilège d'être plusieurs fois avec j'aime pas trop dire le fondateur du cours, Mike Riches, et sa femme Cindy, qui sont un couple américain qui sont super. Et j'ai pu apprécier combien ils aimaient les gens. Ils ont de l'amour pour les gens qu'ils rencontrent. Et puis, ça fait 25 ans qu'ils ont pu commencer à réfléchir un peu plus à ces formations, parce que dans leur ministère pastoral, ils ont été confrontés à des choses très très difficiles. Le livre qui est le complément du cours, la brochure que vous avez est une brochure de travail, le livre reprend bien sûr un peu les mêmes bases, forcément, mais il met beaucoup d'éléments, en particulier 33 témoignages, je vous en lirai un ou deux tout à l'heure, qui permettent de mettre autour de l'ossature la chair substantielle qui est intéressante. Et dans un de ces témoignages, il y a justement cette première rencontre que Mike a eue avec un homme, un jeune, qui est venu à la fin d'un culte et qui avait une grande souffrance. Il était pris dans les griffes du diable, véritablement. Et puis là, il a été interpellé comme pasteur. Il se sentait un peu démuni, mais il a vu que le Saint-Esprit avait été fidèle, a permis qu'il vive des choses magnifiques avec ce jeune. Et ils sont allés maintenant dans plusieurs pays du monde pour apporter ce cours. Au plan francophone maintenant, avec l'équipe de campus suisse romande, Lausanne, eh bien, il y a régulièrement des visites en Afrique francophone. Il y a une quinzaine de pays maintenant qui suivent ces formations. Et en général, c'est 200-300 pasteurs qui viennent suivre cette formation, qui ensuite emportent ça dans leur église. C'est assez phénoménal. Et puis dans d'autres langues, bien sûr, le cours a été donné en Chine, au Moyen-Orient, dans plusieurs pays. C'est assez intéressant. Alors, dans cette partie, maintenant, il faut aller à la page 62. C'est marqué là. C'est un peu comme les épîtres. Vous savez, les épîtres, en général, Paul, il commence, il y a un peu de la doctrine, les trois premiers chapitres d'une épître, puis les trois derniers, c'est la pratique. Là, on va être dans du concret, un peu plus. Mais en parlant de la colère, il faut qu'on se mette un petit peu d'accord là-dessus. J'étais hier soir, c'est un peu l'humour du Seigneur, ça, je me mets rarement en colère. Peut-être à tort. Je pense qu'en réalité, on ne se met pas assez en colère. Mais il y a une saine colère. Jésus s'est mis en colère devant l'injustice, devant ces marchands du temple. C'était une maison de prière, le temple à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on en avait fait? Une maison de trafic et de voleurs. Et Jésus s'est mis en colère. Donc, il y a des saines colères, il y a des saintes colères. Et moi, je pense qu'on est quand même dans une société où il y a énormément d'injustice. Et des fois, souvent, je me dis, je ne me mets pas assez en colère. Donc, il y a des saines colères, puis il y a des colères qui sont un peu moins saines. Bon. J'étais dans une réunion hier soir où j'ai trouvé que la personne qui présidait cette réunion ne cadrait pas du tout les débats, et puis ça allait dans tous les sens, et puis on était à 10h20, on n'avait pas fait la moitié du programme qui était prévu. J'ai quand même poussé un petit coup de gueule, enfin un petit coup de colère, mais après j'étais un peu culpabilisé sur ma couche, mais ça a été, j'ai quand même pu m'endormir. Il a dit, il ne faut pas s'endormir sur sa colère. Mais il y a des colères qui peuvent être très douloureuses. Et c'est pourquoi j'aime bien ce qui est marqué au bas de la page 62, tout en bas à gauche. Il est évident que la colère est un sujet trop vaste pour être réglé en une seule fois. Ce chapitre est donc une introduction. Ce que vous apprendrez ici vous permettra de comprendre la dynamique de la colère et des forteresses qui peuvent y être liées. Ce n'est pas parce qu'on est en colère qu'il y a une forteresse, mais il peut y avoir certaines colères où vraiment on se dit, tiens, là on est sur un autre terrain. Vous pourrez aussi faire des pas importants pour commencer à démanteler ces forteresses. Cela vous équipera pour continuer un cheminement progressif vers la liberté envers les forteresses de colère et de non-pardon. Voilà, on utilise un vocabulaire qui vous met la puce à l'oreille. J'ai bien aimé, je trouvais que c'est sage de l'exprimer comme ça. C'est pas on rase gratis, hein. C'est dire, non, attends, on est conscient, là, il peut y avoir des véritables luttes, des véritables souffrances au niveau de la colère. J'ai une fois un couple de serviteurs de Dieu qui m'avait demandé, j'étais de passage en Suisse, et ils m'avaient demandé, face à de leurs amis qui me connaissaient, qui m'avaient demandé si je pouvais les accueillir parce que il y avait une difficulté, et puis je ne savais pas laquelle, mais finalement il s'est avéré que l'homme avait des colères terribles, qui terrifiaient sa femme, qui terrifiaient ses enfants, leurs enfants. Puis il en était malheureux et très culpabilisé comme serviteur de Dieu. Il était comme responsable aussi dans une œuvre chrétienne, et il se rendait bien compte que c'était un contre-témoignage. Ça lui arrivait de claquer les portes, comme ça et tout. Puis c'était quelque chose qui le mettait hors de lui des fois quand il y avait certaines circonstances. Alors... là, je me suis rendu compte que ça, même le couple était en danger, je dirais. Finalement, la femme, elle était un peu fatiguée de subir les colères de son mari. Et j'ai pris conscience, justement, dans ces formations, de pistes qui étaient données, des ouvertures qui nous permettaient de comprendre certaines dimensions. Alors, je vais commencer par la fin de ce chapitre, mais vous n'avez pas besoin d'aller à la fin. Ils vont terminer. Ils commencent d'ailleurs par un verset biblique, mais à la fin, il y en a trois ou quatre. Juste pour dire que c'est un thème qui est excessivement riche. C'est en général la version du semeur qui est utilisée pour la brochure. Le sot donne libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et se calme. Pourrait y comprendre la passion, colère, quelqu'un qui se donne à fond dans son expression. L'homme prompt à la colère provoque des querelles, et celui qui s'emporte facilement commet beaucoup de fautes. Tous ces textes, vous les avez à la fin du chapitre sur la colère. Mais je les mets un peu maintenant parce que ça permet de situer un peu le problème. Se dire c'est un thème qui est excessivement riche. Qui sommes-nous pour arriver à en faire le tour? Mais néanmoins, on va essayer d'en comprendre quelques éléments. La raison de l'homme lui fait retenir sa colère, et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. Le livre des Proverbes, là, 29, 19, on parle et ailleurs. Puis dans le Nouveau Testament, c'est intéressant, si vous vous mettez en colère, voilà, ok, on peut se mettre en colère, il n'y a aucun souci, mais ne péchez point. Quelle va être la limite? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. C'est intéressant, là on est vraiment sur le terrain spirituel. Et hier soir, sur ma couche, j'ai eu de la peine à m'endormir un peu, puis voilà, j'ai pu déposer ça devant Dieu. Puis ce matin, j'ai écrit à cette personne qui avait... présider de cette manière qui me semblait pas très satisfaisante pour dire, écoute, ce serait bien qu'on se voie et qu'on en parle, parce que je pense que toi, tu étais aussi frustré, mes réactions n'étaient pas forcément très constructives, et puis voilà, j'aimerais qu'on se voie pour en parler, puis essayer d'imaginer que la prochaine rencontre, si ça se passe comme ça, on gère différemment. J'attends la réponse, mais j'ai confiance. Là aussi, j'en mets mon petit dessin. Comment les forteresses spirituelles sont construites? Avant, j'avais mis la peur. Là, il y aura quelques éléments sur la colère. Idem, qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème, si je me mets en colère tout d'un coup, dans un groupe, finalement, si quelqu'un se met fatalement en colère, on va prendre ses distances. Puis peut-être la personne va se sentir rejetée. Va peut-être avoir du ressentiment parce qu'on la met de côté. Peut-être va être triste de voir que malgré ses promesses, un peu comme une personne qui a des problèmes d'alcool, « Oh, c'est la dernière fois que je bois, chérie, je t'assure, plus jamais je boirai. » Puis après, il y a une rechute, et puis la culpabilité, la tristesse, le chagrin, etc. Puis après, voilà, le ressentiment, ça peut conduire à de la rébellion, à de la révolte. Vous savez où j'ai trouvé tous ces mots? C'est dans des témoignages que je vous lirai tout à l'heure. comme c'est pas mon gros truc, la colère, voilà, ça m'aide de voir un peu des gens qui ont vécu ça. Et puis, alors, il peut y avoir au niveau des racines, des suffices d'amour, mais là, ce soir, ce qu'on y met, c'est expérience d'injustice. Et puis, on va parler du pardon ou du non-pardon. Parce que si on était victime d'injustice et que ça nous a mis en colère, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on en veut, on a du ressentiment contre les personnes qui ont été injustes? Ou bien est-ce qu'on arrive à passer par-dessus, à pardonner? Alors on va un peu discuter de tout ça. Quand cet homme-là dont on a parlé tout à l'heure, comme j'avais eu un peu ces éléments, finalement, quand il est venu qui m'a parlé d'injustice, j'ai fait venir un équipier de prière avec lequel j'aime beaucoup collaborer, un homme d'expérience aussi, des coups de discernement. Et puis on est allé sur ce terrain de l'injustice, et effectivement, c'est intéressant parce que cet homme se souvenait qu'il avait vécu des choses très difficiles au niveau de l'école, des moqueries de ses camarades, parce qu'il avait un contexte particulier, puis que ça, c'était quelque chose qui était resté comme une blessure dans son cœur, qui n'avait jamais été vraiment mis en lumière et qui lui jouait des mauvais tours aujourd'hui. Et c'est intéressant parce qu'on a pris un ton de silence devant Dieu, d'écoute, et puis progressivement ça a été montré et il était tout à fait d'accord avec ça. Puis on a pu entrer dans des démarches prières, on en parlera tout à l'heure aussi, avec il y a des éléments là aussi, des pistes. Voilà. J'ai été trop vite. On va laisser cette image. Les racines de la colère, l'injustice, c'est à la page 62. L'injustice peut être définie comme une blessure non méritée qui peut nous arriver sous forme d'un rejet ou d'une souffrance. Toutes sortes d'éléments qui décrivent l'injustice. Et puis ça se manifeste souvent par une colère cachée, accompagnée de tristesse, c'est des mots qui sont apparus. Et puis il faut... Si un jour on a le bonheur d'entrer dans cette dynamique de l'alliance avec Dieu, on va découvrir, j'espère que vous avez découvert des textes comme Ésaïe 53, on voit que Jésus sur la croix a porté le poids de toutes nos fautes, de tous nos péchés, de nos propres erreurs, égarements, mais aussi il a porté le poids des péchés que nous avons subis, de ce qui nous a meurtris dans notre chair. Alors, on peut dire que ce qui est extraordinaire pour nous comme chrétiens, c'est de savoir qu'on a un Dieu en Jésus-Christ qui comprend parfaitement ce qu'on peut éprouver. Lui qui a été victime par excellence d'une injustice profonde, il n'y avait aucun motif sérieux d'accusation. C'est un véritable scandale, le procès de Jésus, comme il a été mené, et les fausses accusations, les faux témoins qui étaient là. Et puis tout ça, ça a conduit sur une croix, le plus épouvantable des supplices de l'époque pour mettre quelqu'un à mort. Et à travers ça, on peut comprendre un peu des dimensions de la grâce de Dieu qui était sur nous, du pardon qui nous a été accordé, du pardon aussi que Dieu voudrait qu'on accorde aux autres. Donc c'est des chemins qui vont... progressivement peut-être nous permettre, si la colère est réellement un combat dans lequel on est, de trouver des chemins, des montagnes peuvent s'aplanir. Les racines de la colère, donc livrées, c'est aussi en lien avec le non-pardon, au haut de la page 63. Et il y a souvent un lien direct entre le non-pardon et les injustices dans nos vies. Et puis le non-pardon va nous conduire à vivre finalement avec des blessures non guéries. Et puis le diable, là-dessus, il peut facilement avoir un accès. Ça produit des fruits d'amertume, de colère, de révolte, etc. Alors, la question du pardon, bien sûr, c'est quelque chose de délicat. Parce que je ne sais pas si parmi nous, des personnes ont vraiment été victimes d'injustices profondes dans leur vie. Et ça peut occasionner de tels dégâts, de telles blessures qu'on ne peut pas traiter de ce sujet à la légère. Il faut vraiment qu'il y ait le Saint-Esprit qui vienne apporter ce qu'il faut dans sa douceur, dans sa tendresse, pour venir parler à nos cœurs, nous révéler quelque chose. Et dans le Notre Père, il y a cette dimension, hein, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, c'est des paroles qu'on peut simplement apprendre par cœur, les redire de manière rituelle, mais sans que réellement il y ait cette fameuse transaction spirituelle. Mais en fait, c'est important de comprendre que si Dieu nous conduit à pardonner, il y a un phénomène spirituel qui se passe. C'est que de retenir le pardon nous maintient, nous, dans une prison. Et on se fait plus de mal à nous-mêmes qu'à la personne envers laquelle on refuse le pardon. Là, derrière, il y a des vérités très profondes, mais encore une fois, si c'est juste des mots comme ça, ça ne va pas. Il faut vraiment que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette dimension. Et tant qu'on retient le pardon, on cultive cette amertume, le diable peut avoir davantage accès à nos cœurs, et puis ça tue une paix et une joie profonde que Dieu pourrait nous accorder. Donc on se fait du mal à nous-mêmes, on empêche des bénédictions de Dieu sur nous. En même temps, c'est vrai que quand il y a des génocides ou il y a des choses épouvantables, mais je ne sais pas si vous connaissez le travail de Portes Ouvertes ou d'autres œuvres chrétiennes qui travaillent parmi l'Église persécutée. Moi, je suis très touché par ce qui se passe avec les chrétiens persécutés. J'ai eu l'occasion de les visiter sur place quelquefois. Quand je vois certaines situations, j'ai eu l'occasion d'aller en Égypte, par exemple, où il y a régulièrement des enlèvements d'enfants chrétiens. Des fillettes, des filles chrétiennes qui se font enlever par des djihadistes. Moi, je ne sais pas, j'étais un père là, égyptien, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Donc, quand on parle de pardon, ça veut dire, oui, mais finalement, c'est anodin, on nous a fait du mal, c'est injuste, oui, mais des injustices, il y en a tous les jours. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça. L'injustice, c'est un scandale. C'est quelque chose de terrible, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Mais en même temps, de rester dans cet état-là de prostration, de rester avec ça, de ruminer constamment, ça va nous empêcher d'aller en avant. Alors, on verra tout à l'heure quelles sont les démarches qui pourraient être entreprises. Alors dans vos brochures, là il y a un travail, on ne pourra pas aller très loin ce soir, mais ça fait partie de vos démarches nécessaires dans ces 3 ou 4 semaines qui ont séparé de la deuxième session. Alors, vous verrez que dans tout ce chapitre des ressources, il y a à chaque fois des questionnaires. Ça ressemble un peu à des tests psychologiques, mais c'est plus que des tests psychologiques quand même. Il y a vraiment des éléments spirituels, des questions comme ça qui vous permettront de vous identifier pour découvrir si réellement vous pourriez être confronté à une forteresse de colère. Pour pas entrer dans des fausses culpabilités ou se mettre des faux fardeaux, des autogoles, comme on dit, sur nous, dans nos cœurs. Moi, je dis un peu ma règle, mais c'est la mienne ici. Je pense que quand on fait ces questionnaires, si on met des croix partout, à l'évidence, c'est qu'il y a certainement là quelque chose que Dieu veut nous montrer. Si on a 2 ou 3 croix par-ci, par-là, je pense qu'il n'y a pas une forteresse, hein. Mais j'ai vu des gens, des femmes, me montrer leur cahier, ils avaient mis des croix partout. J'ai dit, bon, ok, relax, détends-toi, assieds-toi, on va essayer d'écouter le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Alors, dans ces pages qui sont là, en fait, il y a, la page 63, c'est reconnaître la colère. Voilà. C'est pour nous aider, vous aider, à essayer de discerner. Hein? Et puis, vous pourriez faire, on va mettre, on va lire une ou deux choses, un deuxième. Parfois, je me sens assez bien, et puis tout d'un coup, je change d'humeur, quelque chose. Hein? Souvent, je suis impatient avec les autres, et je m'énerve en pensant, mais pourquoi ils ne comprennent rien? Hein? Je m'énerve quand ma contribution n'est pas valorisée. Ça me fout en pétard. Hein. Tac. Alors, bon, si ça correspond à vos réalités, ben voilà, vous pourrez faire ce travail pour répondre à cela. Ensuite, à la page suivante, il y a un élément de plus, c'est reconnaître l'injustice et le non-pardon. Hein, c'est un questionnaire pour aider à être libéré des liens qui résultent de l'injustice, du non-pardon ou de la colère. Il y a deux parties à ce questionnaire qui permettent de reconnaître à quel point on peut être affecté par la colère ou pour identifier les injustices expérimentées ou des domaines de non-pardon. Alors, vous découvrirez, peut-être pas ce soir comme ça, mais qu'en fait, ils ont structuré ça en trois pistes. Ils auraient pu en mettre d'autres, hein. Mais c'est en lien avec notre père biologique, ou notre beau-père, s'il y a eu décès ou divorce, mariage. Dans la relation, il y a peut-être des choses qui se sont passées, idem avec la maman ou la belle-mère, même cas de figure précédemment, ou le conjoint ou le compagnon de vie si on n'est pas marié. Voilà. Mais il pourrait y avoir d'autres domaines de relations, bien sûr, avec des frères et sœurs ou avec des employeurs où il y a eu des choses dans le domaine de l'injustice qui a provoqué la colère et puis qui nous conduit dans une impasse parce qu'on a de la peine à pardonner, puis on se rend compte qu'on tourne en rond, on n'arrive pas à sortir de cette impasse et ça nous fait souffrir. Et dans ces tests, là je vais suivre un peu la filière du père, la relation avec le père. Vous avez tout d'abord page 64. Est-ce que les choses suivantes ont eu lieu dans la relation avec votre père? Puis là, tac, 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 il y a une quinzaine d'éléments. Par exemple, c'est terrible ça, l'abandon. Est-ce qu'on vous a placé constamment devant la télévision ou on vous a confié à d'autres personnes? Voilà, pour toutes sortes de raisons. Peut-être que le papa n'a pas pu être là. Ben, mon père, mes parents étaient divorcés. Mon père, il n'avait pas trop le temps de s'occuper de moi. Hein. Il avait le droit de garde tous les 15 jours. J'avais passé le week-end chez lui. Puis, visiblement, il ne savait pas trop que faire de moi. Hein. C'était pas très stimulant. Mais voilà. Pour autant, je ne suis pas forcément concerné par la colère. Mais je pense que s'il y a dans les autres questions, est-ce que vous avez été beaucoup critiqué par votre père, hein? Ça veut dire dévalorisation, etc. Manque de couverture spirituelle, est-ce que votre père a veillé sur l'atmosphère spirituelle dans la maison? Ben là, ça peut nous conduire à beaucoup de remises en question, bien sûr, même moi comme pasteur avec mes enfants, hein, des fois, j'ai vérifié que ce n'était pas toujours terrible, j'ai dû m'en humilier, mais... Donc s'il y a un ou deux points comme ça, encore une fois, qui ressortent, on n'est pas forcément concerné, mais s'il y a beaucoup, beaucoup de ces points, ça pourrait l'être. Ensuite, au-delà de la page 64, les domaines suivants sont des choses que votre père a peut-être manqué de faire. Ben, pas montrer l'affection, pas bénir, manquer de paroles encourageantes, manquer de discipline. Ensuite, les domaines suivants peuvent également provoquer l'amertume. Est-ce que vos frères et vos sœurs ont été traités d'une manière qui vous a rendu amer, etc. Est-ce que votre père a traité votre mère d'une manière qui vous a rendu amer, etc. Voilà. On peut cocher tout ça. Et en définitive... ça conduit à une démarche de prière. Et on vous propose, dans la colonne de droite, au milieu de la page 64, une démarche pour accorder le pardon. Hein? En l'occurrence, par exemple, c'est juste des pistes. Vous pouvez mettre vos mots à vous, par exemple, si vous vous sentez concerné, rejoint en remplissant ce questionnaire. Hein? Ça pourrait être un moment de prière très beau, devant Dieu, peut-être même avec un témoin. Je pardonne à mon père le péché de, puis nommer. Hein, là, on a besoin de demander, d'accorder le pardon. Et puis ensuite, je te demande pardon pour les ressentiments que j'ai eus envers mon père. Enfin, c'est vraiment cette démarche de repentance que c'est là, qui est là. Et puis, à la fin de cette prière même, proposition, qui peut, si on a été blessé par notre père sur cette terre, qui peut nous sembler difficile juste dans l'état actuel, mais Mais l'aboutissement de tout ça, ça pourrait être peut-être de bénir notre Père avec des propositions qui sont faites, là, que tu le bénisses en lui accordant le salut en Jésus-Christ. Voilà. Hein, etc. Plusieurs bénédictions qui sont proposées. Ensuite, au haut de la page 65, ben, moi j'ai marqué positionnement de ma brochure. Hein, je déclare que j'ai mon papa. Je veux le regarder avec ton regard. En reconnaissant aussi ses blessures et ses douleurs. Là, je trouve que c'est intéressant. Parce que vous savez qu'en général, on reproduit. Hein, nouveau, c'est question du générationnel. C'est ce qui est terrible dans les problèmes d'abus. Hein. D'abus, c'est que tous les problèmes d'abus, vous savez que la plupart des gens qui abusent ont été abusés eux-mêmes. Le péché, on n'en parle pas dans les journaux. Hein. Mais la Bible en parle. Et ça crée des dégâts incroyables. Et s'il n'y avait pas l'amour de Dieu, s'il n'y avait pas Jésus qui était venu, mais qu'est-ce qu'on aurait fait? Et le travail du Saint-Esprit peut être extraordinaire pour la guérison, la restauration, pour donner un nouveau départ. Après, il propose encore une deuxième prière. Hein? Toujours au haut de cette page 65, colonne de gauche, là, on a dessiné un peu. Père céleste, je renonce maintenant à une vie dans la colère, le ressentiment et l'amertume. Je renonce au droit d'être offensé. Je renonce à mon droit de voir la justice se faire. Je me rends compte le poids de ces paroles, si on peut les dire de tout cœur. Si vraiment on les pense et qu'on les dit, moi je crois qu'il se passe vraiment quelque chose dans les cieux comme sur la terre au plan spirituel. Hmm? Je te remets ma relation avec mon Père et je déclare qu'elle est entre tes mains maintenant. C'est ce que j'essaie de faire avec mon Père. J'ai un Père qui est à mort vivant. Il ne veut pas me voir. Hein. Il a 90 ans. Mais au moins, il m'a parlé il y a 2 ans. Il m'a téléphoné. C'était tragicomique, cette histoire. Enfin, je ne pensais pas vous raconter ça, mais je ne sais pas si c'est intéressant. Mais mon Père... Finalement, bon, a été surmarié, a été veuve, etc. Puis il a eu plusieurs compagnes. Puis la dernière compagne qu'il a eue, elle m'a téléphoné un jour pour me dire, écoutez, moi je trouve que c'est scandaleux, votre père, il est seul à la maison, il est mal fichu, moi je vais le trouver, mais j'habite loin. Et puis votre sœur, elle habite le même village, elle ne va jamais le voir. Puis vous n'allez jamais le voir. Moi, j'aimerais provoquer une rencontre, j'aimerais qu'on puisse manger ensemble et tout. Je lui ai dit, oh, calme-toi. Je lui ai dit, je vous remercie beaucoup, ça me touche beaucoup votre intervention. Je lui ai dit, mais moi je veux bien voir mon père, il n'y a aucun problème. Mais j'aimerais que lui le veuille et qu'il me le dise. Parce que j'étais assez blessé après ma conversion d'essayer absolument de remettre les choses, enfin de retrouver mon père et tout. Puis je me suis fait massacrer. Silence radio pendant une année et demie. Puis un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit, écoute, mon ami t'a appelé, mais écoute, non, je pense que c'est trop tard, de toute façon, j'étais un mauvais père, puis écoute, c'est trop tard, mais j'ai pas envie de remuer de la merde, enfin, voilà. Mais au moins, il m'a parlé, j'ai dit, je te remercie papa, c'est chouette, alors moi, je prie pour lui, je le bénis, il est toujours en vie, je sais pas si un jour, il y a quelque chose qui va se passer, mais moi, quand je lis ces prières qui sont proposées et tout, je dis, mais... ça nous aide quand même à pouvoir nous situer, à pouvoir mettre des mots sur quelque chose. Et puis, ma mère était alors adepte de l'occultisme, elle était très. C'était épouvantable, ma mère. Mais c'était ma mère. Elle s'est convertie sur son lit de mort. Elle avait une rogne contre mon père encore, comme toutes ses dernières années de vie. Son divorce, elle ne l'a jamais supporté. Puis, comme elle a eu 2 divorces, c'était épouvantable. Mais sur son lit de mort, elle a pardonné. C'est un autre épisode, mais l'infirmière s'est demandé ce qui se passait. Ma mère qui était debout sur son... Enfin, s'est levée son lit. Jésus, Jésus. Enfin, il y a eu des choses incroyables. L'infirmière est montrée complètement affolée. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas. Et ma maman a pu s'en aller en paix. J'étais heureux pour elle qu'elle puisse vraiment être dans la paix de Dieu, dans la main de Dieu. J'ai pu la prier pour elle sur son lit de mort. C'était un beau moment. Mais on espère qu'il y a des choses qui se passent avant quand même. Voilà. Alors... Dépositionnement. Donc, je vous dis des choses rapidement. Je suis navré, mais vous avez bien compris. On vous avez un cahier de travail, un canevas de travail. On essaye, au niveau des intervenants, de vous donner quelques pistes, mettre un peu de chair là-dedans. Et puis, peut-être que vous ne vous sentez pas concerné, mais peut-être que vous connaissez quelqu'un Elle vous dit, mais c'est mon ami ou comme ça, mais ça lui ferait du bien d'entendre quelque chose comme ça, parce que je sais que elle ou il est en prise avec des colères terribles. Sa femme m'en a parlé, puis elle en souffre. Puis peut-être qu'on peut offrir le livre « Vive libéré hein, » à des personnes qui n'ont pas pu venir au cours. C'est mieux de leur offrir le livre que le canevas, parce que si elles n'assistent pas au cours, ce canevas, ce n'est pas évident. Hein. Ok ? Voilà, désolé si je vais si vite et si peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles dans ce que vous entendez, mais je vais terminer tout à l'heure par quelques témoignages. Puis vous verrez qu'on va terminer par de l'espérance, vraiment. On va voir quand le Saint-Esprit agit dans des vies, il peut y avoir des choses étonnantes qui se passent. Voilà, puis vous verrez, je n'ai pas tout dit, mais là il propose même d'écrire une lettre. Puis que si le papa est décédé, par exemple, eh bien, qu'on peut quand même écrire la lettre, parce que ça peut nous permettre de déposer quelque chose, de lâcher prise à quelque part d'un domaine où c'était difficile et délicat. Ok ? Alors, être affranchi de la colère, pas solution clé en main, hein. Encore une fois, c'est une démarche, toutes ces démarches de prière. Voilà, c'est ce texte de Jacques que j'ai cité tout à l'heure, je crois que je l'ai dit juste en plus, c'est magnifique. Avec ces quatre R, ben voilà, je reconnais, on a vu déjà quelques éléments dans les bouts de prière qu'on a lus. Ben, Seigneur, je reconnais que des fois je me mets en colère d'une manière démesurée ou que c'est pas juste, et puis je reconnais surtout que ouais, j'en ai une rogne contre celui-là, ce patron qui m'a licencié abusivement, etc. Puis j'arrive pas, Seigneur, j'ai besoin au secours, viens à mon aide, viens au secours, mon incrédulité. Enfin, voilà. Mais reconnaître, déposer devant Dieu. Puis là, ils disent, mais c'est à page 67 que vous avez ces prières qui sont un peu étoffées. Là. Utilisez les listes sur les pages précédentes, hein, tout ce travail que vous auriez pu faire hein, pour identifier ces domaines et pour les confesser devant Dieu. Donc c'est un travail sérieux qu'on peut faire dans un esprit de prière. Hein. Puis si vous avez un compagnon de prière, une compagne de prière, pourquoi pas lui demander de prier pour vous pendant cette période où vous allez travailler un peu ce sujet. Le résister. Oui, je reviens quand même en arrière. Non, c'est juste pardonner. Formellement, les quatre R, c'est reconnaissez, résister, remplacer, recevez, mais il peut y avoir des situations et ça nous arrive régulièrement avec les équipes de prière, justement quand on voit que la personne commence à reconnaître qu'il y a des choses qui sont pas, ouais, qu'elles ne peuvent pas lâcher, qu'elles ont un ressentiment contre leur papa ou leur maman, etc. Là, on les arrête. On ne va pas tout de suite dans le résister. On dit, attends là. Est-ce que tu serais d'accord d'accorder le pardon ? Parce que tu dis que tu reconnais que tu en veux à ton père. Mais est-ce que tu serais d'accord de pardonner ? Et moi, je me souviens d'un épisode que j'ai vécu qui était très beau et très émouvant avec un homme qui avait, je pense, 65 ans comme ça. Puis il avait sa maman âgée, puis il avait une rogne contre sa mère. On voyait que la relation avait été difficile. Il disait, mais elle me pourrit la vie, cette bonne femme. Il parlait comme ça, le gars. Hein. C'était aussi un gars qui avait fait tout un parcours d'engagement avec Dieu. Moi, ça, bon. Puis en même temps, je comprenais. Parce que ma mère, elle m'a aussi pourri la vie à bien des égards. Mais, puis à un moment donné, on est venu sur la question du pardon. Puis là, il s'est arrêté. Moi, j'ai dit, et le pardon ? Et le pardon ? Est-ce que... Puis tout d'un coup, il a dit, mais dans le fond, j'ai jamais vraiment réfléchi à cette dimension jusqu'à présent. C'était comme une découverte pour lui. Ça, je trouvais super sa simplicité de cœur. Et c'était un très beau moment. C'était un des moments d'ailleurs qui m'a marqué. Parce que après, on est allé dans le résister, etc. Mais quand on l'a encouragé, lui, à prier aussi, à exprimer quelque chose dans la prière, il a commencé à chanter un cantique, hein, à louer Dieu comme ça. C'était fantastique. C'est pour ça que je continue comme équipier de prière, parce que même si on tremble et puis qu'on a toujours un peu la crainte d'être à côté de nos pompes, on a vraiment, les équipiers sont motivés parce qu'on a tous vécu des fois des choses tellement belles, tellement magnifiques, on était presque dans les larmes de reconnaissance, de voir comment la grâce de Dieu avait révélé des choses, c'était beau. Alors, maintenant, le résister, vous connaissez, le remplacer, vous connaissez peut-être un peu, pas trop passionnément, je ne sais pas. Allez à la page 95, si Yann me permet. Là, je peux, je suis autorisé. Parce que il y a tout au bout de votre cahier, par rapport à des ressources, et si vous êtes dans cette démarche en lien avec la colère, il y a une page magnifique, à partir des pages 95, « Marcher dans l'esprit opposé ». Au lieu de la colère, hein, remplacer, au lieu de la colère, « Je ne permets pas à la colère de me contrôler, je réfléchis sur mon lit et je me tais », psaume 4-5. « Je ne permettrai pas que le soleil se couche sur ma colère », c'est le texte des Éphésiens. « Quand je suis en difficulté, je reste patient et je prie », etc. Voilà, il y a 5, 6, 7 versets, puis on peut en prendre d'autres avec une concordance biblique. Et ça, ça peut nous fortifier. On peut même apprendre des versets par cœur, si ces versets nous aident, nous nourrissent la parole de Dieu et nous donnent un fondement solide dans nos vies. Et on peut proclamer ça devant l'ennemi qui essaye de nous tendre des croche-pattes. Et c'est là que je vais parler, pour finir, de vivre libéré de la colère. Parce que vous voyez, il y a être affranchi de la colère et il y a vivre libéré de la colère. Il y a une nuance là. Être affranchi de la colère, pour moi, et quand je l'ai compris, parce que je suis toujours en train d'essayer de comprendre ce cours, mais ça m'a éclairé, c'est-à-dire, mais je reviens à mon ami avec ses crises de colère qui effrayaient sa femme et ses enfants, qui étaient un contre-témoignage. C'est la première fois qu'il osait en parler. Il y a comme un joug qui s'est brisé dans la prière au-dessus de lui. Un soulagement, enfin je peux parler de ça. Et puis sa femme était là. Sa femme était heureuse qu'il ose en parler devant deux hommes témoins. Ça engageait une démarche. Ça ne veut pas dire que tout est résolu sur ce moment-là. Mais ça a ouvert tout d'un coup quelque chose de nouveau. Donc, être affranchi, voire vivre une transaction spirituelle, ça peut arriver très vite, sur le moment même, où ça pourrait être décalé. Ces quatre R, en parenthèse, on ne le fait pas systématiquement. Les équipiers essayent de discerner jusqu'où on peut aller. Une heure de prière, ça passe tellement vite, vous verrez. Vous êtes peut-être effrayé maintenant, on dit, quoi ? Deux personnes encore pendant une heure prient pour moi. Mais c'est horrible. Mais je ne vais jamais m'en sortir. Et vous verrez comment ça passe vite, c'est incroyable. T'es d'accord, Yann ? Yann, il est d'accord avec moi, ça me fait plaisir. Vivre libre ne veut pas dire que nous n'aurons plus jamais à faire face à de tels problèmes, mais que ces problèmes ne pourront plus nous dominer. Vous avez peut-être entendu, on a fêté le 500e anniversaire de la Réforme, cette image de Luther, on ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner autour de notre tête, mais on peut les y empêcher d'y faire leur nid, puis quelqu'un rajoutait, d'y pondre leurs œufs. Bon, c'est vrai, ça ne veut pas dire que l'ennemi va lâcher. Il va essayer de nous rattraper. Il va essayer des fois, avec la peur, avec les angoisses. J'ai connu ça, ce combat. Il y a eu ce moment vraiment où j'ai pu être affranchi, j'ai pu oser en parler. Et ça m'a libéré. J'ai commencé à oser en parler même dans l'église où j'étais pasteur. Je n'avais jamais osé le faire. Je n'avais jamais osé le faire dans les deux autres églises où j'avais été pasteur précédemment. Donc pour moi, ce n'est plus un sujet tabou, c'est un sujet où je suis libre. Je ne crie pas sur les toits. Mais quand je suis dans des rencontres comme ça ou dans une relation de confiance, j'ose dire. Et puis j'ai découvert encore plein de choses dans ce domaine, mais ce n'est pas le monde pas le lieu dont on va parler maintenant, mais ça ne fait rien. Mais voilà. Donc, ça ne veut pas dire que tout est réglé définitivement, c'est un processus, mais j'ai trouvé très, très touchant le témoignage d'un collègue qui a parlé sur la colère. Un jour, il a dit, j'ai été licencié. Il m'a dit, mais c'est de manière abusive, il travaillait dans une mission chrétienne. J'ai été licencié par des chrétiens. Il dit, immédiatement, j'ai compris que je devais pardonner. J'ai écrit une note personnelle dans laquelle je déclarais solennellement que je déposais aux pieds de Jésus toute velléité d'amertume ou de rancœur et que je pardonnais à ceux qui m'ont ainsi fait du mal. Mais, dit-il, plusieurs fois par la suite, j'ai été tenté d'en vouloir à ces gens. Hein? C'est comme si ça remontait. Et chaque fois, il s'est ressaisi, il s'est mis à genoux pour relire ce qu'il avait déclaré solennellement devant le Seigneur dès que cela lui était arrivé. Et pour moi, ça illustre parfaitement ce que j'essaie de vous expliquer. Hein? On peut affranchi et libéré, c'est deux démarches complémentaires. Mais c'est déjà extraordinaire si réellement une fois il y a cet affranchissement. Après, ça nous rend libres. Ça permet une nouvelle liberté. On peut marcher différemment. Puis des fois, si ça revient, ben, voilà. Je peux aller prier avec quelqu'un si je sens que l'angoisse me gagne. Mais c'est quelque chose qui... Il faut être honnête. Il faut le dire. Hein, c'est pas un truc. C'est pas une technique. Je vous lis encore un témoignage peut-être. Oui, juste un témoignage peut-être encore dans le livre. Vive libéré, comme ça vous donne l'envie de l'acheter. Si je vais aller en vacances, il faut non, j'ai aucun bénéfice là-dessus. Ça soutient un peu l'œuvre de campus, c'est très bien. Allez, parlons de Karen. J'ai deux exemples, c'est d'une femme, c'est d'un homme, mais si on va avoir un temps d'échange, je ne sais pas si... Enfin, j'y vais déjà avec Karen. Puis après, je regarde le directeur là-bas. Karen est une femme dont nous savons qu'elle a appris à vivre la liberté en pardonnant, dans l'obéissance et en bénissant. Elle sortait d'un mariage extrêmement abusif. Les blessures émotionnelles infligées par son ex-mari la faisaient souffrir continuellement, malgré son remariage à un merveilleux chrétien. Elle voulait que son nouveau mariage soit libre de son passé et des souffrances en lien avec celui-ci. En raison des abus et des injustices, sans parler du traumatisme subi par ses trois enfants, le pardon n'était pas facile. La période de Noël était particulièrement difficile. Elle devait confier ses trois garçons à son ex-mari et à sa nouvelle femme pour les vacances. Un soir de Noël, alors qu'elle préparait ses fils pour leurs vacances avec beaucoup de réticence, elle a reconnu l'état de son cœur et a crié à Dieu de la délivrer de son amertume. Et puis, elle a entendu le Saint-Esprit lui dire « Donne-lui la porcelaine !» Elle s'est sentie poussée à sortir de l'armoire la moitié de la porcelaine que son ex-mari lui avait offerte durant leur mariage et qui lui était resté après qu'il avait emporté l'autre moitié chez lui. Elle sentit Dieu lui dire de l'emballer, d'écrire « Joyeux Noël » sur le carton et de l'envoyer en cadeau avec les garçons. Elle s'exécuta plus par obéissance que par envie. Mais alors qu'elle déposait le paquet dans les bras des enfants, le fardeau d'amertume, de colère et de ressentiment s'est subitement et miraculeusement envolé de son cœur. L'amertume a été remplacée par une compassion du cœur et un désir de prier pour son ex-mari avec les enfants et de le bénir. Dans sa nouvelle liberté, elle était maintenant capable d'aider ses enfants, devenus adultes aujourd'hui, à résoudre leur propre amertume et à développer une relation avec chacun de leurs parents. Donc, ce qui est fabuleux, c'est que quelque chose qui peut nous arriver dans notre cœur, à nous, non seulement on en retire un bénéfice, mais on peut... avoir une influence autour de nous, je dis c'est les sphères un peu du royaume de Dieu, hein, ça transpire cette présence de Dieu, cette présence de Jésus, et ça peut bénir des gens. Mais on ne le fait pas d'abord pour bénir des gens, mais pour vraiment mettre notre vie en règle avec Dieu. Ce Dieu qui nous conduit dans des prières de repentance, dans des chemins de repentance, qui peut nous sembler curieux parce que c'est en lien avec du mal qu'on nous a fait, mais vous comprenez le sens hein, de ce style de vie qui est basé sur la repentance. On peut reconnaître des choses qui sont, voilà, qui sont juste devant Dieu. C'est entre Dieu et nous. Puis là, il y a des transactions spirituelles qui se passent. Hein? Voilà. Je ne sais pas si je délivre ou non. J'arrête là ou bien ? Oui, j'arrête là. Il y a des réactions, il y a des échanges, il y a des questions, il y a des choses qui ne sont pas claires, des choses qui vous ont troublé, qui vous repartez déçus. Vous êtes comment ? Quelqu'un, vous n'oseriez pas le dire si vous repartez déçu, mais